Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes en direct sur Radio Méga à Valence et en rediffusion sur Radio Diwa à Di et sa région, Radio La Web Radio basée à Dieulefi. Atomic Mag est une émission antinucléaire mensuelle réalisée par l'association Arrêt du nucléaire Drôme Ardèche. Nous vous saluons, auditrices et auditeurs fidèles des radios libres. Nos invités du mois sont Roland Desbordes et Julien Sirène, qui sont respectivement adhérents et co-directeurs de la CRIRAD. Roland Desbordes reviendra sur l'exposition et les conférences qu'il donne sur le thème « Nucléaire et eau, ça ne coule pas de source ». Julien Sirène nous parlera d'une grave contamination radioactive en Indonésie. Nos 10 invités ne sont pas avec nous au studio, nous les avons enregistrés la semaine dernière. Atomic Mac est aujourd'hui composé de Gilles à la technique, Jean-Pierre à la programmation musicale, Georges et moi-même aux interviews. Gérard n'est pas là, mais il nous écoute et nous le saluons. Bonjour Gérard. Et nous aurons un billet de Kim le mois prochain. Pour commencer, le billet de Georges sur Fukushima et Tchernobyl. Bonjour Georges.
Oui, bonjour auditrices et auditeurs. Un flot d'infos internationales pour ce mois de novembre. Fukushima d'abord. D'après Science et Avenir d'août, deux robots télécommandés ont pénétré dans un réacteur gravement endommagé pour mesurer les radiations. Une étape cruciale dans la préparation du démantèlement de la centrale prévue d'ici 2051.
Autre information du Figaro Économie du 22 juillet. On sait que le pays avait arrêté tous ses réacteurs nucléaires après le drame de 2011. On apprend que la compagnie électrique Kansai Electric annonce le lancement d'une étude en vue de construire une centrale de remplacement à celle de Miyama.
Oui, il s'agit d'une étude géologique, a déclaré le président de l'entreprise Nozomu Mori lors d'une conférence de presse télévisée. Sous prétexte que, je le cite, « les ressources naturelles sont limitées dans notre pays, il est donc important que l'énergie nucléaire joue son rôle dans les années à venir ».
Cette étude avait pourtant été abandonnée après la catastrophe de 2011. Y a-t-il une date fixée pour un éventuel début de travaux ?
Non. Les médias locaux ont rapporté qu'un nouveau réacteur pourrait coûter quelque 6-8 milliards de dollars et mettre 20 ans avant d'être opérationnel. Le gouvernement a continué à soutenir l'énergie nucléaire comme une source fiable, propre et un outil dont le Japon a besoin pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. À cela s'ajoute le soutien des grandes entreprises, car le Japon aura besoin de davantage d'électricité pour faire fonctionner l'intelligence artificielle et les centres de données à l'avenir.
Autre information, selon le Figaro du 2 octobre.
Oui, au Japon, un projet inédit est en train de voir le jour à Fukushima. La construction d'un stade de football intégralement conçu en bois local est pensé dès sa conception selon les principes de l'économie circulaire. Cette enceinte destinée au club Fukushima United FC ambitionne de devenir le stade le plus écologique du monde. Le bois issu des forêts avoisines a été pensé pour être démonté et réutilisé ultérieurement, en cohérence avec un programme de reforestation et d'éducation au travail du bois. L'efficacité énergétique et la durabilité environnementale sont au cœur du projet.
Saluons une belle contradiction pour le peuple japonais et spécialement les habitants de Fukushima. Retour à l'écologie et en même temps étude pour une centrale nucléaire.
Oui, et je rajoute, n'oubliez pas que le démantèlement final de la centrale de Fukushima est prévu pour 2051.
On change maintenant de continent. Quelle nouvelle, Georges, de l'Ukraine ?
Alors, d'après l'IB et la IEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'alimentation électrique de la centrale de Tchernobyl a été reconnectée le 2 octobre et celle de Zaporijjia le 23, après une panne record d'un mois. Alors, je rajoute cette dernière information du 9 novembre qu'une ligne électrique de 350 kV appelée Ferroslavana a été mise en place. C'est donc une ligne de secours nécessaire. Je cite la Crirad du 22 octobre qui déclare, toujours sur la panne de Zaporijjia, même en cas de rétablissement du raccordement au réseau externe, la situation demeure précaire à la centrale de Zaporijjia, donc toujours occupée par les forces russes, mais également au niveau des autres sites nucléaires ukrainiens, fréquemment survolés par des drones. En effet, 11 coupures d'alimentation électrique ont affecté Zaporijjia. Et on s'attend effectivement à d'autres coupures.
La situation reste donc inquiétante. Pour finir, l'Indépendant du 28 octobre nous informe d'une surprenante enquête.
Oui,
sur le pelage des chiens errants de Tchernobyl.
Voilà, ce pelage présente une coloration bleue. Les bénévoles du groupe Dog of Tchernobyl, qui s'occupe d'environ 700 chiens errants, cherchent à en capturer pour déterminer la cause de ce phénomène. Vous serez informé des suites de cette recherche.
On attend avec impatience. Merci Georges. Et nous écoutons maintenant Roland Desbordes. La CRIRAD organise des conférences débats sur la thématique nucléaire et eau, ça ne coule pas de source. Roland Desbordes, ancien président de la CRIRAD, les anime et nous l'écoutons.
Il faut 50 mètres cubes par seconde et par réacteur. Donc, si vous avez 4 réacteurs, en gros, c'est 200 mètres cubes par seconde. C'est énorme. Et dans les périodes justement où le Rhône est bas, ben quasiment c'est toute l'eau est utilisée. Il y a deux systèmes. Il y a le système cruasse avec des tours qui consomme beaucoup moins d'eau. Elle en prélève beaucoup moins et elle en consomme beaucoup moins. Évidemment, ça part en vapeur d'eau. Mais là, c'est quelques mètres cubes par seconde, pas 50. C'est 2, 3, 4 mètres cubes qui vont partir sous forme de vapeur d'eau qui ne vont jamais retourner au fleuve. Alors, une petite partie repart au fleuve pour cruasse, tour aéro-réfrigérante. Par contre, pour Tricastin et Saint-Alban, presque l'intégralité retourne au fleuve, mais réchauffée et polluée par des produits chimiques et radioactifs. En gros, celles qui sont sur des fleuves qui sont à faible débit, c'est le cas de la Garonne, de la Loire, de la Seine, de la Moselle, celles-là, elles ont des tours d'évaporation parce que la quantité d'eau disponible dans ces fleuves, elle est en moyenne très faible. Du coup, là, il y a des tours d'évaporation. Le Rhône, il est entre les deux. C'est-à-dire, il est plutôt beaucoup plus puissant. Les choix qui ont été faits par EDF, c'est en même temps un problème de place pour mettre les tours d'évaporation. À Tricastin, il n'y avait pas la place. L'entretien des tours coûte cher. À Cruas, il y avait la place. Et puis, Cruas est arrivé en dernier, à un moment donné, où il y avait déjà beaucoup de centrales. Et il était difficile d'imaginer encore chauffer beaucoup plus le fleuve. La centrale est venue s'installer au pied du canal. Plus tard, la centrale de Tricastin, elle est inondable, du coup, parce qu'elle est au pied du canal. C'est-à-dire, le scénario, catastrophe, l'eau inonde la centrale, n'a plus d'eau pour refroidir. C'est le scénario Fukushima, ça. La digue, elle peut s'effacer sous une secousse. Ça peut être l'occasion de faire sortir l'eau du canal et perdre la source froide à la centrale nucléaire. Et à la suite de Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire, c'était en 2011 Fukushima, a relancé EDF en disant « Mais quand vous avez construit la centrale, vous avez dû démonter la digue pour faire passer vos tuyaux, puis refaire la digue. » À la suite de Fukushima, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, dit à EDF « Il faudrait que vous revoyiez vos calculs, là, vos estimations. » Quand EDF n'a pas envie de faire quelque chose, ben elle joue la montre. En novembre 2017, le gendarme s'est fâché. Il a arrêté les 4 réacteurs de Tricastin du jour au lendemain. Et ils l'ont arrêté pour 3 mois. C'est l'exploitant qui dit, moi, pour fonctionner dans des conditions optimum, c'est-à-dire pas trop cher, je pourrais toujours faire mieux, mais ça coûtera trop cher, je demande à pouvoir rejeter telle quantité de chaleur. C'est la puissance du réacteur qui définit la chaleur qu'on rejette pour que mon réacteur fonctionne tout le temps. L'autorité de sûreté nucléaire a étudié, elle a dit, ça doit tenir la route. Et donc, elle a fixé 2 limites. Une limite d'augmentation de température entre l'amont et l'aval des centrales nucléaires. En aval, il ne faudra jamais qu'il y ait plus de 30 degrés. On considère qu'au-delà de 30 degrés, la vie aquatique, elle est morte. Il y a une limite de température maximale et puis il y a un delta température entre amont et aval. Tricastin, qui refroidit directement sur le Rhône, élève de plusieurs degrés l'eau du Rhône. Cruas, c'est moins de 1 degré et Tricastin, c'est 3-4 degrés. Vous avez d'autres centrales en amont. Tricastin, c'est la dernière. C'est souvent elle qui est montrée du doigt. Pourquoi ? Parce que c'est là que la température de l'eau est un peu la plus chaude. La limite de 30 degrés, elle est parfois atteinte. C'est ce qui fait qu'il y a des restrictions de fonctionnement. Ils savaient que sur la Garonne, sur la Loire, sur la Vienne, sur la Seine et même sur la Moselle, ils ont installé des barrages et pour que le débit moyen soit juste à la limite des autorisations. Donc ce sont des barrages qui sont, que moi j'appelle, hydronucléaires. Ils ne servent à rien d'autre qu'à réguler un fleuve pour pouvoir faire tourner aux limites de fonctionnement les installations nucléaires. Alors, des fois, ça ne suffit pas. La Garonne, par exemple, a eu pas mal de périodes où elle a dû être obligée de s'arrêter. Ça, c'est la technique qu'a utilisée EDF pour pouvoir quand même, sur ces fleuves-là, bien que muni de tours d'évaporation, le débit du fleuve ne suffisait même pas. Le Rhône, en moyenne, c'est 500 mètres cubes par seconde sur l'année. Mais la Loire, c'est 40 mètres cubes par seconde en moyenne sur l'année. Alors, pour les autres surfaces, déjà, dans les autres surfaces, c'est les fleuves, en gros, les canaux, les fleuves. Le nucléaire consomme 70% des autres surfaces. Ça, c'est impressionnant. L'agriculture, c'est 8%. L'industrie, c'est 9%. L'eau potable, c'est 8%, quelque chose comme ça. Le nucléaire, c'est 70%. C'est vraiment énorme, je veux dire, comme consommation d'eau. Certes, ils la rejettent, mais comme on vient de le voir, elle est réchauffée. Et comme on le verra après, elle est polluée par des éléments chimiques et radioactifs. Donc, ce n'est pas la même eau qu'ils rejettent. Ces installations sont autorisées à effectuer des rejets. C'est quand même responsable de 80% de l'augmentation de température moyenne du Rhône sur 40 ans. C'est 10 fois moins. On comprend que ça coince.
Ça, c'était pour les eaux de surface. C'est pour les eaux souterraines.
Interdiction d'utiliser les nappes pour refroidir les centrales nucléaires. Sauf Tricastin, qui, on revient toujours à cette histoire, dans le scénario accident de Tricastin, c'est on n'a plus d'eau pour refroidir, le canal s'est vidé. C'est le scénario retenu aujourd'hui pour une catastrophe à Tricastin. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus d'eau ? Par exemple, un séisme, c'est le sujet sur lequel nous on revient. Le Teil a été une secousse pour tous les gens de la région parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On n'avait pas imaginé un séisme de cette ampleur-là, de cette impuissance-là, dans cette zone-là. On est sur une faille qui était officiellement inactive. Eh bien, elle n'est pas inactive. Or, on a Cruas et Tricastin. Du coup, repose la question, depuis le Teil, est-ce que nos centrales sont bien équipées pour... La question a été posée par l'autorité de sûreté nucléaire, par nous, les associations, pour dire, alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre installation, est-ce qu'elle va résister à un séisme du Teil ? Supposons qu'il soit sous la centrale. EDF n'a toujours pas répondu et disait « Mais nous, on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Teil. » Donc, parler de l'accident à Tricastin par séisme qui efface la digue, qui inonde la centrale et la centrale n'a plus d'eau, c'est un scénario qui est tout à fait envisageable aujourd'hui. Du coup, EDF a été obligé de faire un pompage dans la nappe phréatique, sous la centrale, qu'on appelle une source d'eau ultime secours. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'eau du canal, on pourra refroidir momentanément, de mettre en puissance minimum, mais on a encore besoin, là, de l'ordre de 5 à 10 mètres cubes par seconde. Là, il y a eu une autorisation qui a été donnée de pomper de l'eau, mais c'est en cas d'accident.
Ces eaux sont réellement protégées ?
C'est strictement interdit de balancer un polluant, quel qu'il soit, dans une nappe phréatique. Une nappe, c'est commun. On dira c'est normal. Mais n'empêche que sous les centrales nucléaires, sous Orano, il y en a, sous EDF, à Cruas, énorme, à Tricastin, un peu moins, mais il y en a. Et là, on est devant une infraction à une réglementation, c'est d'avoir pollué la nappe. Alors, il y a une responsabilité de l'exploitant. Nous, ce qui nous fait râler, les associations, c'est que même si on porte plainte, nous, les associations, pour infraction, on ne gagne jamais. Le seul gendarme, lui, a la possibilité de sanctionner et ne le fait jamais. Ça, ça nous énerve profondément. Il s'appelle l'Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection. Le gendarme, il est strict quand il s'agit de sûreté. Et là, on l'a vu, il était capable d'arrêter les 4 réacteurs de Tricastin pour des raisons de sûreté. Par contre, quand il s'agit de pollution environnementale, comme l'exploitant sait que sur ces sujets-là, il ne va pas être sanctionné vraiment. Donc, il est beaucoup moins vigilant. Si l'exploitant savait que l'ASN sanctionnerait sévèrement pour une pollution d'une nappe phréatique ou d'une autre surface, eh bien, il faudrait plus attention. Quand on est touché par un risque d'une installation nucléaire à proximité, ça n'apporte rien de positif. Et pourtant, le risque, il est là. Il a été défini comme acceptable, non pas après consultation des citoyens, mais après décision d'une administration. Les gens concernés localement, que ce soit les élus, qui devraient être les premiers à poser des questions, ben, ils n'en posent pas. Ils ne sont pas très curieux. Hein. Et c'est là tout le rôle de la CRIRAD, c'est d'avec son labo, d'aller faire des prélèvements. Et nous, là, retrouvons la radioactivité dans l'environnement. Mais comme c'est une autorisée de rejeter dans le milieu naturel, pour les exploitants, que c'est encadré, que, etc., ben, on n'a rien à dire. Ça s'appelle une pollution, mais c'est légal. C'est pour ça que nous disons, oui, c'est légal, c'est vrai, les textes l'autorisent, juridique. Mais ce n'est pas légitime. Légitime, ça veut dire que ce n'est pas normal d'autoriser un industriel, quel qu'il soit, à rejeter des produits dans notre environnement, l'air et l'eau, qui sont des produits connus comme cancérigènes, mutagènes, etc. Ce n'est pas normal. Vous avez conçu vos centrales en disant, si je peux disperser ces matières-là, gaz et liquides, dans l'environnement, je n'aurais pas à les traiter comme déchets. Pour moi, c'est bénéfice, exploitant. Ce sont des déchets radioactifs, mais qui ne sont pas traités comme des déchets, qui sont dispersés dans l'environnement. Eh bien, le nucléaire bénéficie d'une exception de régime général, au régime général. La loi, en même temps, dit qu'il ne faut pas polluer. On n'a pas le droit de traiter un déchet par la dilution. Sauf que de l'autre côté, vous n'avez pas les mêmes administrations, mais d'autres administrations au sein de l'État qui donnent des autorisations à des industriels, comme ceux du nucléaire, pour faire exactement ce qui est opposé à la règle générale. Je dis ça dans une réunion où il y a l'ASN, etc., le préfet, etc. Tout le monde regarde ailleurs, parce qu'ils ne rigolent pas. Ils savent très bien que ce que je dis est vrai, mais ils sont gênés, donc ils regardent ailleurs.
Merci Roland, et nous écoutons maintenant François Corbier, nucléaire.
Au village, nous avons dit adieu aux fleurs, aux fruits, adieu semailles, feu des ondes, adieu au bétail aussi. Nous avons sur la rivière mis du coudron, du béton, c'est chez nous, on en est fiers, et tous ensemble nous chantons. Oh, nucléaire. Le maire était chagriné, il n'avait plus le moral, avait coupé le nez sur l'affiche électorale. Mais depuis qu'il a bâti la centrale, il est heureux. Son sourire s'est élargi, et mieux qu'un nez, il en a deux. Oh, nucléaire. Oh, nucléaire. Depuis qu'on a
la centrale. Le médecin est content. Sous sa blouse de tergale, des doigts, il en a 200.
Rendons la parole à Roland Desbordes qui nous parle maintenant de la pollution au tritium.
Le tritium, c'est de l'hydrogène, mais il y a trois hydrogènes. Il y en a un qui est radioactif, c'est le tritium. L'hydrogène 3, tritium, qui lui est radioactif. Le deutérium, qui est l'hydrogène 2, qui n'est pas radioactif. Et l'hydrogène 1, c'est l'hydrogène normal, de la molécule d'eau normale. Dans les centrales nucléaires, on produit beaucoup de tritium, qui est radioactif. Cet hydrogène, il se combine immédiatement avec l'eau dans l'environnement. Donc ça devient de l'eau, mais pas de l'eau normale, de l'eau triciée, radioactive. Donc. Les centrales nucléaires, pas Orano, en produisent beaucoup. EDF rejette des grandes quantités de tritium à travers ces effluents qui sont rejetés dans le fleuve. Là, on parle d'effluents liquides radioactifs qui sont stockés temporairement sur le site dans des grandes cuves. Quand la cuve est pleine, ben on ouvre le robinet et on vide la cuve dans le canal ou dans le fleuve ou dans la mer. L'exploitant contrôle la quantité de rejets, l'exploitant comptabilise les rejets et à la fin de l'année, il doit prouver à l'administration qu'il n'a pas rejeté plus que la quantité autorisée. C'est une quantité qui a été demandée par l'exploitant, ce n'est pas un chiffre au hasard. Et c'est d'ailleurs variable d'une centrale à l'autre. Il y a les puissances qui sont différentes, vieux modèles, les nouveaux modèles, etc. L'exploitant, c'est lui qui doit prouver à l'administration que sur l'année, il n'a pas dépassé la limite annuelle. Chaque année, on remet le compteur à zéro au 1er janvier. Effectivement, quand on titille l'exploitant là-dessus, lui dit « mais c'est autorisé, j'ai le droit de le faire ». Mais en même temps, il y a des règles autres qu'on appelle la radioprotection, où on doit justifier toutes les doses pour les gens qui vivent autour. Parce qu'eux, ils vont bouffer quelques becquerels de ci ou de ça, de tritium, pourquoi pas. Attendez, là, ces gens-là, ils n'ont rien demandé, ils se retrouvent avec des becquerels dans leur eau du robinet. C'est pas normal, c'est pas justifié pour eux. Ils ne l'ont pas demandé. Pollution, mais légale. Toujours pareil, quand on parle d'une pollution légale, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne dans le système. Alors, pourquoi on s'est intéressé au tritium jusqu'à l'eau du robinet? Parce que ce qui est rejeté dans l'environnement par les installations, les centrales nucléaires, ce tritium, il est très mobile, c'est de l'eau. On ne peut pas le retenir. Il ne connaît pas les parois, il ne connaît pas les limites, lui. Donc, forcément, à un moment donné ou à un autre, les réseaux de distribution d'eau pompent dans le fleuve, soit ils pompent dans les nappes. Mais les nappes, par exemple, pour nous, toute la région, toute la vallée du Rhône, les nappes phréatiques sont des nappes d'accompagnement du Rhône. C'est-à-dire qu'elles sont alimentées par le Rhône, mais évidemment pas directement par le Rhône. Donc il y a un filtrage qui se fait, ce qui fait que si l'eau du Rhône est radioactive, forcément elle l'est puisqu'il y a des rejets, ça ne va pas tout aller dans la nappe, mais ça va aller en partie dans la nappe. Or, la nappe sert à l'alimentation. C'est pour ça que le dernier gros boulot qui a été fait par la CRAD, c'est de chercher dans toutes les communes de France qui sont alimentées par des réseaux, eh bien, quelle était la radioactivité de l'eau du robinet. Sur les 36 000 communes, il y a 5 000 communes en France qui n'ont jamais fait de mesure de radioactivité. Parfois des grosses communes, ce n'est pas normal. L'Agence régionale de santé, qui est le gendarme pour ce genre de contrôle, ne fait pas son boulot là, hein. Heureusement, la grande majorité des communes de France, des 36 000 communes de France, il n'y a pas de problème, parce qu'elles sont dans des nappes suffisamment loin des installations nucléaires. Par contre, le Rhône, la Seine et la Loire, et même la Garonne, il y a des problèmes de radioactivité dans l'eau du robinet des communes en aval de ces installations. Les problèmes sont très différents. Le problème le plus grave, il est sur la Loire, parce que la Loire a autant de centrales que le Rhône. Il y a autant de rejets radioactifs dans la Loire que dans le Rhône, mais pour un débit 10 fois moins. Du coup, ça se dilue beaucoup moins bien. Donc, toutes les communes dans l'estuaire de la Loire, à partir de Châtellerault, en gros, hein, Nantes, hein, etc., toutes les eaux des communes sont polluées par du tritium. Et à des niveaux qui sont limites sanitaires. L'ARS des Pays de Loire ne dit rien. Nous, pour le Rhône, on a de la chance, c'est qu'il a un débit 10 fois plus élevé. Du coup, lui, ça dilue mieux. Ce qui fait que, oui, il y a des petits problèmes sur quelques nappes en aval de Pierrelatte. Ce n'est pas énorme, quoi. Ce qui est intéressant, c'est Paris, parce qu'il y a en gros deux réseaux. Il y a un réseau qui est alimenté par une nappe qui est à l'ouest de Paris et l'autre par une nappe à l'est de Paris. Celle qui est à l'ouest de Paris n'a pas de tritium. Celle qui est à l'est de Paris, elle est alimentée par une nappe qui est sous influence de la centrale de Nogent-sur-Seine, qui est juste en amont de Paris. Et celle-là est contaminée. Et c'est flagrant, il y a vraiment la moitié de Paris qui est concernée par la pollution radio.
Merci Roland. Et maintenant, nous écoutons Julien Sirène, co-directeur de la CRIRAD, que nous avons interviewé la semaine dernière à la CRIRAD, justement, et qui nous parle d'une grave contamination radioactive en Indonésie, dont étrangement, on n'entend pas du tout parler en Europe.
Ce qu'on sait de la contamination survenue en Indonésie, on ne sait pas exactement à quelle date, puisque tout est parti des États-Unis. Les douanes américaines indiquaient avoir détecté des conteneurs contaminés au césium-137 et cette contamination concernait des crevettes venant d'Indonésie. Les États-Unis ont contacté les autorités indonésiennes qui ont reconnu fin septembre que cette contamination provenait d'une aciérie dans une zone industrielle à 50 km à l'ouest de Jakarta. Dans cette aciérie auraient été fondues des matières contaminées au césium-137. On sait juste qu'il a été détecté après coup aux États-Unis. L'usine de conditionnement des crevettes se trouve dans la même zone industrielle que l'aciérie, à 2,5 km au nord, qui veut dire qu'on a eu une dispersion de la contamination provenant de l'aciérie par voie atmosphérique. En septembre, les États-Unis ont également indiqué avoir détecté une autre contamination dans des clous de girofle cette fois-ci. Les autorités indonésiennes, après coup, courant octobre, ont reconnu que cette contamination provenait d'un autre foyer qui serait situé sur l'île de Sumatra, détecté dans une plantation de girofliers. L'origine, disons, de cette deuxième contamination est vraiment mystérieuse.
Il y a un certain nombre d'usines et de sites dans cette zone industrielle proche de la Syrie qui sont évoqués par l'agence Antara le 27 octobre. Il y a justement un manque de données chiffrées.
Le césium-137, c'est un élément radioactif artificiel qui est utilisé dans des sources, des capsules, disons, contenant une très forte quantité de radioactivité. Et ces sources ont des applications dans le domaine industriel et le domaine médical. Elles sont par exemple utilisées pour stériliser du matériel médical. Et il s'agit de sources vraiment très très puissantes. Et on a déjà eu deux accidents. C'était à Algeciras, dans le sud de l'Espagne, en 1998, où une aciérie a fondu par erreur une source de ce type. La CRIRAD l'a détectée dans l'air dans la vallée du Rhône. Donc elle a impacté plusieurs pays européens et plusieurs milliers de tonnes de déchets contaminés ont dû être enlevés des environs de l'usine. La deuxième chose, c'est au Brésil en 87, une source de ce type qui était dans un appareil de radiothérapie dans un hôpital désaffecté a été évacué par erreur par un ferrailler qui ne connaissait pas sa dangerosité, qui l'a ramené chez lui, sa fille a joué avec, etc. Il y a eu 4 morts, il y a eu 250 personnes contaminées, et c'est considéré comme un des plus graves accidents radiologiques hors catastrophe nucléaire. On est un petit peu dans le même cas de figure, cette fois-ci en Indonésie. Les quelques données chiffrées qui sont communiquées sont vraiment très très alarmantes, puisque la valeur maximale qui est citée, plus de 30 millisieverts par heure, donc le niveau naturel, c'est 0,1 microsievert par heure. Donc là, on est à 30 000, donc 30 millions de microsieverts par heure. Et donc à un tel niveau, la dose limite maximale annuelle pour le public qui est de 1 millisievert, elle serait atteinte en 2 minutes d'exposition. Donc c'est vraiment des valeurs très très élevées. L'aciérie se trouve dans une zone où se trouvent également à peu près 250 autres entreprises, mais il y a aussi des habitations, potagers, des champs, etc. Donc si on trouve des crevettes contaminées à plus de 2 km de l'aciérie, ça veut vraiment dire que la contamination est généralisée. Les autorités mentionnent le fait que 90 habitants ont été évacués. Les autorités ont considéré que l'exposition était suffisamment importante pour induire des risques. Ce qu'on ne sait pas du tout, c'est à quel niveau a été retenu, disons, pour considérer que les secteurs étaient contaminés et pour que les personnes soient relogées. La deuxième chose, c'est qu'on sait que 9 travailleurs ont été identifiés comme contaminés, sont pris en charge médicalement. Donc on a une contamination de personnel, une contamination de secteur résidentiel. Et les autorités alors disent effectivement que je crois qu'on a plus d'une trentaine aujourd'hui de sites qui sont contaminés, dont une vingtaine d'usines Et les autres sites, ce sont des boutiques, des zones résidentielles et des terrains vagues. Pour l'instant, les autorités parlent de décontamination terminée. Qu'est-ce que signifie la décontamination terminée? C'est difficile de le savoir tant qu'on n'a pas de données chiffrées, de relevés de la contamination sous forme de carte. On a le témoignage d'un couple. La femme travaillait dans l'usine de crevettes et le mari dans l'aciérie. Alors déjà, ils n'ont plus de travail, ils n'ont aucune indemnité, donc ils n'ont rien pour vivre. Le mari, lui, fait l'objet d'un traitement par du bleu de Prusse. C'est un produit chimique qui permet d'éliminer plus rapidement le césium du corps. La femme, elle, indique qu'elle n'a simplement eu des vitamines et puis que d'ailleurs, elle les a toutes prises et que son stock est terminé. Donc c'est vraiment quelque chose de très léger.
C'est un événement très grave. Et quelles sont les conséquences?
Déjà, le fait que la contamination n'a pas été détectée en Europe, mais aux États-Unis, premièrement. Et deuxièmement, plus une catastrophe survient loin de chez nous, et moins on en parle. Ce qu'on sait, c'est que la contamination a concerné un secteur où se trouvent des usines qui exportent, en tout cas des crevettes. Après, on a le deuxième foyer de contamination avec les clous de girofle. L'Indonésie est le premier producteur au monde de clous de girofle. Des usines à 4 km au nord de la Syrie, on a d'immenses usines de production de chaussures. Alors là, on n'a strictement aucune information sur le fait que ces usines soient contaminées ou pas. Donc côté européen, nous, la CRIRAD, on a interrogé les autorités. On a commencé par interroger l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui nous a dit que l'entreprise qui exporte les crevettes n'en a fait rentrer aucune en Europe via la France. Depuis 2020. Avant 2020, on n'en sait rien, mais surtout, on ne sait pas s'il y a eu d'autres importations via d'autres pays européens. On a contacté la Direction Générale de l'Alimentation qui gère les contrôles de qualité des denrées agricoles. Donc, il nous a dit la même chose que l'autorité de sûreté nucléaire, qui nous a dit qu'elle ne savait pas, elle n'était pas en mesure de nous dire si il y avait des produits importés depuis d'autres pays européens. Pour ça, il fallait s'adresser à la Commission européenne. La France ne sait pas elle-même si des denrées de ce type peuvent être importées. Le ministère de l'Agriculture nous a indiqué qu'il n'était que compétent s'agissant des contrôles de denrées alimentaires d'origine animale, mais pas d'origine végétale. Donc pour les clous de girofle, ils ne sont pas compétents. Il faut contacter les douanes.
Et la CRIRAD a lancé une pétition.
Plutôt, on propose aux personnes intéressées de contacter directement le ministère de l'Agriculture français pour poser un petit peu les mêmes questions que celles que nous, on se pose. Après, nous, côté CRIRAD, avoir écrit, relancé, etc. pendant plusieurs jours et n'avoir obtenu aucune réponse, on a lancé cette proposition pour le public. Et 2-3 jours après qu'on ait lancé cette démarche, on a eu enfin une réponse du ministère de l'Agriculture. Donc une réponse qui reste très lacunaire, donc il reste du travail. Mais je dirais cette étape-là, en tout cas, a porté ses fruits. Donc on remercie les personnes qui ont joué le jeu. Et maintenant, le dossier reste complètement brûlant, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe en France, en Europe. Mais surtout, moi je dirais, le plus important, c'est vraiment que se passe-t-il en Indonésie? Là, on est vraiment dans l'inconnu total. Il vaudrait mieux, en attendant d'en savoir plus, plutôt consommer des crevettes qui viennent de pas trop loin.
Pour parler d'un autre sujet qui concerne la CRIRAD, c'est le réseau de balises.
On a toujours une dizaine de stations de mesure de radioactivité dans la vallée du Rhône, de Genève jusqu'à Avignon. Le financement du réseau est toujours un petit peu précaire. En fait, il est cofinancé par de nombreuses collectivités de la région, dit potentiellement changement de financement à chaque élection. Bon, la CRIRAD est vigilante et on fait attention d'une part à ne pas dépendre d'une seule collectivité, mais à maintenir une pluralité du financement sur plusieurs collectivités. Et il est financé d'autre part par l'argent des adhérents et des donateurs de la CRIRAD. Donc c'est pour ça que c'est important, si vous ne l'êtes pas encore, d'adhérer à la CRIRAD. Quant aux observations, pour le moment, depuis que le réseau a été mis en place au début des années 90, il lui est arrivé de détecter deux événements de contamination des masses d'air contaminées. Donc le premier, c'était cette fameuse source de césium fondue dans le sud de l'Espagne en 1998, détectée dans la vallée du Rhône. Et le deuxième, c'était la catastrophe de Fukushima, puisque 15 jours après Fukushima, la CRIRAD a mesuré une contamination de l'air dans la vallée du Rhône pendant 3 semaines. C'est important continuer à faire fonctionner ce réseau, puisque c'est un petit peu le seul réseau indépendant de ce type et de cette ampleur en France. C'est sûr que l'idéal, ce serait qu'il y ait des réseaux indépendants sur la planète entière, puisqu'on sait qu'il existe un réseau international qui est là plutôt pour vérifier que personne ne fait d'essais nucléaires illégaux, le réseau du CTBTO. Mais malheureusement, les données de ce réseau ne sont pas publiques. Très probablement que ce réseau a des sondes dans le secteur de l'Indonésie. Et peut-être que ce réseau a vu une contamination de l'air, mais en tout cas, on n'a pas accès aux données.
Nous passons, merci Julien, et nous passons maintenant à la rubrique à Braque, à nouveau avec Georges, et tu nous parles d'abord de Cruas. Que s'est-il passé le mardi 30 septembre ?
Eh bien, la centrale de Cruas a ouvert ses portes à une délégation de la SNR, accompagnée de leur homologue japonais, Nuclear Regulation Authority, NRA. La journée a été rythmée par des échanges techniques autour des modifications réalisées à l'occasion des 40 ans des réacteurs. Alors, parmi les points forts de la visite, les plots parasismiques, une spécificité du site de Cruas, ont suscité un vif intérêt. Ça, c'est la version des actualités de la centrale de Cruas. Ce que j'en dis, c'est qu'il n'y a pas un mot sur la pollution de la nappe phréatique sur le site de Cruas. Et enfin, le coût des modifications réalisées à l'occasion de ces 40 ans n'est pas évoqué, n'est pas donné.
Et le 18 septembre 2025 ?
Alors, le fonctionnement d'une centrale nucléaire engendre la production d'effluents liquides et gazeux dont les rejets dans l'environnement sont strictement réglementés, qu'ils soient radioactifs ou non. Dans le cadre des engagements d'EDF et la démarche ISO 14001, chaque centrale a mis en place une organisation afin d'assurer une gestion optimisée des effluents, visant notamment à réduire la source de la production d'effluents, notamment par le recyclage, et enfin réduire les rejets de substances radioactives ou chimiques au moyen de traitements appropriés. Alors pour cela, les registres des rejets transmis chaque mois à l'autorité de sûreté nucléaire en application de l'arrêté sont mis en ligne sur le site internet de la centrale de Cruas-Metz pendant une durée de 24 mois. Alors j'ai été voir et à la lecture détaillée du registre des données chiffrées de septembre 2025, les seuls commentaires écrits de l'exploitant sont RAS, c'est-à-dire rien à signaler. Donc voilà, tout est RAS, pas de souci avec les rejets. Vous n'êtes pas obligé d'y croire.
Et on dirait que toi, Georges, tu n'y crois pas vraiment.
Non, je me pose des questions.
Parle-nous donc maintenant de la dernière information, celle du 5 septembre 2025.
Alors, dans le cadre de sa quatrième visite décennale, un important chantier de modernisation touche à sa fin. Il s'agit de l'installation d'un répartiteur de corium sous le réacteur numéro 1. Cet équipement supplémentaire vient à renforcer la sûreté des installations et protéger l'environnement, même en cas de situation exceptionnelle. Il s'agit d'une cuve spéciale placée sous le réacteur, conçue pour recueillir, étaler et refroidir le corium. Une matière très chaude de plusieurs milliers de degrés qui peut se former en cas de fusion du cœur du réacteur. Cela garantirait ainsi l'intégrité de l'enceinte du réacteur en limitant tout impact sur l'environnement et la population. Et oui, sauf que Greenpeace informe et demande comment ce stabilisateur de corium expérimental va résister à la chaleur d'un magma de 2500 à 3000 degrés, alors que la lave d'un volcan est à 1000 degrés. Donc cette chaleur capable de faire fondre l'acier et le béton, percer la cuve et le radier et polluer la nappe phréatique avec risque majeur d'explosion.
Ce n'est pas très rassurant. Est-ce que c'est mieux pour Tricastin ?
Alors, Tricastin, sans entrer dans le détail, mais pour résumer les 8 incidents, 8 événements significatifs durant le mois de septembre ont été déclarés à l'autorité de sûreté nucléaire. Au niveau 0, en dessous de, l'échelle INES, car d'après l'exploitant, ils n'ont eu aucune incidence sur la sûreté des installations ou sur l'environnement. On peut quand même considérer que 8 incidents en un mois, dont 6 de sûreté et 2 de radioprotection, concernant plusieurs fois chacun des 3 réacteurs, cela fait beaucoup.
En effet, merci Georges. Et maintenant, nous écoutons Claudia Vergier, coprésidente des Amis de la Terre, qui nous parle du film « Retombée silencieuse » qui sera programmé à Montélimar le 28 novembre prochain. C'est un film de Hideaki Itô, un documentaire sur les conséquences des essais nucléaires réalisés dans l'océan Pacifique par les États-Unis dans les années 1950.
Pourquoi le président Kennedy a arrêté les essais nucléaires atmosphériques? Il y a une enquête là-dessus. Et c'est grâce à une seule femme, c'est Louisa Reiss, qui a travaillé en tant que citoyenne le président pour qu'il arrête ses essais et elle a réussi. Il traite aussi les Hipakusha, aussi c'est abordé dans ce film. C'est des personnes qui ont été contaminées par des radiations, qui ont été rejetées en fait par la population japonaise.
Qui ont été stigmatisées, on leur a presque reproché d'avoir été victimes.
Oui, c'est ça. Ça parle beaucoup des essais nucléaires atomiques, atmosphériques en fait au Nevada, donc en Amérique. Pas du tout en fait des essais nucléaires françaises. Vous allez trouver beaucoup de témoignages en fait sur des populations qui ont été exposées à ces essais nucléaires. Dans ce film, et surtout pointer la responsabilité de l'État qui n'a pas su informer ces populations du danger qu'ils couraient en fait. Beaucoup d'humanité, beaucoup de témoignages. On va organiser un débat. Un échange, il y a Kurumi qui va être dans la salle, il y a Roland Desbords aussi qui va être là de la CRIRAD, il y a Dominique Malveau qui pourront répondre à des questions. Donc on a souhaité de projeter ce film à Saint-Paul et à Montélimar parce que c'est deux villes qui sont auprès des réacteurs. Ça nous semblait vraiment pertinent en fait de proposer ce film dans ces deux villes.
Merci. Et maintenant, deux informations à l'agenda. Donc d'abord, comme on vient de le dire, le film Retombée silencieuse à Montélimar le 28 novembre 2025 et la CRIRAD au salon Tatou Juste à Saint-Étienne le 22 et 23 novembre sur le thème nucléaire et eau dont nous avons parlé. Roland Desbordes sera présent à chaque fois et ce ne sera pas le seul intervenant, bien sûr. Au revoir donc, chers amis, auditeurs et auditrices.
Oui, je veux simplement donner une information très récente sur Fukushima, qui est victime d'un tsunami suite à un tremblement de terre de 6,8 avec une vague de maximum 1 mètre. Je n'ai pas plus d'informations. Voilà, c'est très récent. Merci.
Tu en auras sans doute plus le mois prochain. Merci Georges. Donc, toutes les informations d'arrêt du nucléaire Drôme Ardèche au 0805 69 67 58 et sdn26-07.org. Pour réaliser Atomic Mac aujourd'hui, il y avait Gilles à la technique, Jean-Pierre à la programmation musicale, Georges, Gérard et moi-même Dominique à l'animation. Merci à nos invités Roland Desbordes et Julien Sirène. Toutes les informations sont sur le site de la CRIRAD, crirad.org, et également à sortir du nucléaire, donc sdn26-07.org et amisdelaterretoutattaché.org. Atomic Mac est podcastable sur les sites de nos 3 radios partenaires, radio-mega.com, rdiwa.fr et radiola.media. Fidèles auditrices et auditeurs, défendons ensemble nos radios libres, associatives et non commerciales. Nos radios sont en danger. Le Premier ministre veut raboter 44% de nos dotations. Nos radios sont des espaces pour exprimer notre liberté de parole. Au mois prochain, premier lundi de décembre.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe à...